culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Leïla Babès, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille où vous enseignez la sociologie des religions et l'islam. Vous avez déjà publié un certain nombre de livres, dont un entretien avec l'imam de Bordeaux, Tariq Obrou. Vous essayez de réfléchir sur ce nœud entre religion et politique depuis longtemps, depuis plusieurs années, et ce qu'il en est de ce nœud en islam. Je vous reçois à l'occasion de la parution de votre dernier livre aux éditions Armand Collin, livre qui est paru l'année dernière en 2011 et qui a pour titre « L'utopie de l'islam » et pour sous-titre « La religion contre l'État ». Il y a là déjà, dès le titre et le sous-titre, une audace. Je sais que votre livre soutient une thèse originale et forte, si vous voulez bien nous l'exposer.
Oui, très simplement, la thèse va à l'encontre de cette idée largement répandue, à la fois chez les musulmans, mais aussi chez les observateurs extérieurs, ceux qui ont toujours vu l'islam comme une religion fondamentalement politique, une religion qui n'a jamais réussi à opérer la séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Moi, je vais à l'encontre de cette idée pour mettre l'accent justement sur le fait que, au contraire, l'islam est une religion qui a toujours combattu le politique, qui a toujours combattu l'État de l'intérieur, c'est-à-dire un État qu'elle a elle-même produit comme une sorte d'excroissance. Alors, après, on peut débattre sur la question de savoir si le politique, l'État, est inscrit dans les sources de l'islam, si c'est une obligation religieuse ou non. Peu importe, le fait est que l'islam a produit un État. Mais en même temps, moi, j'arrive à cette conclusion assez paradoxale, c'est que ce n'est pas un véritable État. Parce que tout concourt dans les sources de l'islam, dans ces logiques que dont les musulmans se sont emparés pour contester le pouvoir, tout concourt à combattre l'État en tant qu'institution autonome. Car il n'y a pas d'État religieux. C'est la thèse aussi que je soutiens. L'État et la religion, ce sont deux choses antinomiques. C'est soit la religion, soit l'État, parce que l'institution du pouvoir centrale de l'État ne peut être, ne peut exister, ne peut se reproduire parce que c'est une institution que dès lors qu'elle a une logique propre, qu'elle produit une logique propre, dès lors qu'elle a une forme d'autonomie par rapport à la religion. Or, l'islam, en tant que message, en tant que langage du politique, en tant que source fondatrice, en tant que préceptes qui ont animé depuis toujours les mouvements de contestation, vont à l'encontre de l'État en tant qu'institution autonome. Ils combattent l'État au nom de la religion, au nom de la pureté de la religion, au nom d'une utopie, de quelque chose qui, au fond, n'existe pas, c'est utopique, et c'est ce que j'ai essayé de montrer.
Mais en même temps, évidemment, vous allez presque jusqu'à ridiculiser ceux parmi à l'intérieur même de l'islam et parmi les musulmans qui ont une vue moderniste, réformatrice, ceux qui pensent que la séparation entre le religieux et le politique et de fait dans l'histoire, puisque vous faites partie de ceux, c'est ça qui est très surprenant, vous prenez une des icônes du modernisme et du réformisme musulman, Ali Abderrazak, le grand cheikh réformiste de Lazar, descendant de la tradition de Mohamed Abdou, qui avait écrit dans les années 20 justement ce fameux livre sur les fondements du pouvoir en islam et qui montre que justement il y a lieu de distinguer profondément en Mohammed le prophète et non le roi, et que jamais il n'a été perçu comme roi, et que la séparation était de fait, que l'État qui a été fondé était un État impérial qui s'est inspiré des empires que les conquérants arabes ont défait, l'empire byzantin dans l'espace syro-palestinien, l'empire sassanide perse dans l'espace mésopotamien. Et en même temps, votre thèse est très subtile en même temps. Vous montrez qu'il y a une volonté d'être dans le politique, mais contre le politique de la part des musulmans.
Oui, d'abord une chose, la séparation, je ne la nie pas. Au contraire, je dis simplement que c'est une banalité que de dire que, mais non, pas du tout, l'islam ne confond pas le politique et le religieux, il y a une séparation, etc. Bien sûr qu'il y a une séparation, enfin, c'est évident, et cette séparation, je pense qu'on peut la situer à partir de l'action de Omar, hein, le deuxième calife, qui, de fait, l'a opéré, tout au moins dans la conscience musulmane, en faisant cette division du travail entre les religieux et les politiques. Hein. Par la suite, évidemment, au niveau institutionnel, la séparation va se déployer d'une manière beaucoup plus visible. Ce n'est pas ça que je remets en question. Ce que je remets en question, à partir de la lecture de Abderrazak, que nous admirons tous, hein, en tant qu'ancêtre, en quelque sorte, précurseur de la pensée laïque, tout en étant sur le terrain de l'islam, c'est cette naïveté qui consiste à dire que l'islam c'est seulement une religion, que le prophète a été seulement un prophète et pas un roi. Bon, il n'avait pas évidemment le statut de roi, mais il avait une fonction de chef politique. Il a été tout cela à la fois. Il a été prophète et il a été chef politique. Et il a fondé une communauté dont j'ai essayé de démontrer qu'elle a été constitué justement sur une base politique, du fait de ces conversions collectives, hein, de cette adhésion de tribus, de chefs de clans qui ont entraîné leurs tribus, et que par la suite le premier calife Abou Bakr a combattu pour les ramener dans le giron de l'islam. Donc cette constitution qui s'est fondée par la conjonction du politique et du religieux, elle est très claire dès le départ. Et ensuite, il y a la production de ce califat qui n'est pas d'inspiration. Enfin, il y a évidemment des aspects dans l'administration, dans la gestion du pouvoir qui emprunte aux Byzantins, qui emprunte aux Sassanides, mais ce n'est pas quelque chose qui a été imposé de l'extérieur. C'est bien une production de l'islam. Enfin, on a essayé de reconstituer un petit peu les circonstances de cette institution du califat. Les circonstances sont évidemment humaines, historiques, politiques. C'est un concours de circonstances, je suis d'accord. Mais je dis en même temps que ça n'est pas très réaliste que de dire que l'islam n'a pas produit une sphère politique, ou tout au moins un fait qui relève du politique. Non, le politique est là depuis le début et il est toujours là aujourd'hui.
Oui, mais alors c'est un politique. C'est une vision politique qui est contre le politique comme technique.
Je crois que c'est une illusion.
C'est en cela, d'ailleurs, où le mot, votre titre devient tout à fait clair, l'utopie de l'islam, la religion contre l'État. Mais la religion en tant que politique contre la politique d'État.
Tout à fait.
C'est à peu près ainsi.
Oui, c'est exactement cela.
Soyez un peu plus, entrez dans cette finesse, dans cette nuance qui est si majeure, si importante dans la thèse que vous développez dans votre livre.
Je pense que
nos auditeurs.
Je pense que l'exemple qui illustre le mieux et de la façon la plus spectaculaire cette aporie entre un idéal de l'islam en tant que religion de justice, sociale en tant que religion égalitaire, qui a produit tout un courant, hein, bon, qui est peut-être n'est plus peut-être aujourd'hui tellement représenté, et puis d'autre part un courant séculier, on va dire, représenté depuis les origines par les Omeyyades, par exemple, hein, c'est-à-dire des gens qui étaient d'origine noble, qui ont été des compagnons du prophète, qui ont participé du politique, mais qui
certains,
ont vraiment...
Certains, pardon, étaient même ses ennemis, mais ils ont
oui,
vu dans l'islam
voilà.
une immense promotion trouvé, économique et sociale.
Absolument, ils ont trouvé dans l'islam le moyen de manifester, de se déployer en tant que pouvoir... En tant que pouvoir séculier, au nom de l'islam, évidemment. Et ces séculiers, précisément, Omar les a beaucoup combattus. Il les a neutralisés. Il les a, pour ainsi dire, complètement laminés. Parce qu'il les a soumis aux religieux, en quelque sorte. Il les a mis sous surveillance. Lui-même les contrôlait et il a donné une précédence. Il a donné la priorité aux religieux en tant que représentants de l'éthique supérieure de l'islam et du Coran, parce que je pense qu'Omar était un véritable défenseur du Coran. Pour lui, la loi supérieure, c'était le Coran, contrairement à toute une autre tradition qui est plutôt portée par les hadiths, et dans lesquels on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Alors, je pense que cette conception égalitaire est que j'appelle anarcho-théocratique, parce qu'elle aboutit toujours à détruire le politique, hein, tout en le revendiquant. Elle a été illustrée très vite par les Kharijites, hein, et qui ont été eux-mêmes préparés par tout ce courant de coranistes, hein, de spécialistes du Coran, qui se recrutaient principalement dans les classes les plus populaires, des anciens esclaves, etc., des gens qui n'avaient pas un rang social enviable à l'époque de l'avènement de l'islam, et qui vont, eux, prendre la tête de la contestation, du premier grand mouvement de contestation politique, les Kharijites. Et moi, je dis justement dans le livre que ces Kharijites qui représentent un schisme de l'islam, un troisième grand courant à côté des sunnites et des chiites, ce ne sont pas des hérétiques, ce sont simplement des gens qui ont fait une lecture qui est tout aussi, je dirais, acceptable, pas plus bête qu'une autre, et qui avaient justement cette conception totalement égalitaire de l'islam, et qui fait que, pour eux, le chef politique, l'imam, le calife, c'est plutôt un imam pour eux, parce que c'est un calife qui n'a absolument pas de pouvoir. Eh bien, il doit être tellement parfait que l'exercice du pouvoir en devient impossible. Eh bien, même si ça n'a jamais été fait, je pense que Omar, Ali et un certain nombre de compagnons, justement, qui faisaient partie de ces courants de coranistes, ont porté au plus haut sommet cet idéal de l'utopie, de justice et d'égalité dans l'islam. Et ce courant a toujours combattu précisément le politique, parce que le politique, l'exercice du pouvoir, c'est déjà le monde corruptible, c'est déjà la domination. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à accepter.
Et alors, avant qu'on en vienne aux Kharijites et toute la réputation, la mauvaise réputation qu'ils ont, et vous démontrer que, en fait, leur mouvement correspond à la structure même que vous dégagez dès la scène originelle. J'aimerais bien que nous revenions déjà à Médine, la Médine du temps du prophète, et qu'on parte de cette anecdote, parce qu'elle me paraît tout à fait signifiante et éclairante, du débat qu'a eu le prophète avec un des grands représentants de l'ascétisme musulman, Abu Dharr, qui était le représentant des pauvres et de ceux qui ont fait vœu de pauvreté, d'une certaine manière, et qui représentait justement cette cette utopie, cette éthique de l'égalité et de la justice, au sens le plus prégnant dans une société, et qu'il aurait proposé au prophète donc un poste politique, et le prophète lui a dit non, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes pauvre,
vous êtes un faible.
Et le mot faible est très important que vous utilisez, le mustadaifoun, parce que c'est le mot qui va...
Tu es un daïf, tu es un faible.
Oui.
En fait, la lecture qu'on a toujours fait de ce hadith, enfin de ce récit, est que le prophète a voulu lui signifier qu'il était un homme sans habileté politique, sans capacité. Ce n'est pas quelqu'un qui a une stature d'homme politique, de pouvoir. Ce que moi j'ai compris, connaissant un petit peu le personnage, qui est un homme un ascète, très très virulent, mais en même temps tout à fait représentatif de ce courant qui est à mi-chemin entre l'ascèse intramondaine, qui pourfend les richesses, qui critique le pouvoir, le calife, Othman, et qui en même temps, de temps en temps, fait des retraites. Donc il est dans le monde et hors du monde à la fois.
Alors, curieusement, c'est très intéressant. Il est considéré comme un des modèles pour la tradition soufie, pour le soufisme par la suite.
Absolument.
Mais l'autre élément, dans la modernité, le mouvement communiste émanant des pays arabes et islamiques, voyait en lui le premier communiste.
Ils en ont fait une sorte d'ancêtre du communisme islamique.
Utopique, là aussi. De l'utopie communiste.
De l'utopie communiste, ce à quoi, justement, Al-Azhar avait répondu par une fatwa en disant « pas de communisme dans l'islam ». Et donc, ma lecture de ce hadith est différente. Moi, je pense que, connaissant un petit peu le personnage, ce n'est pas du tout le pouvoir qu'il voulait. C'était une parabole, c'était une sorte de provocation, je pense, venant de lui. S'il fallait interpréter les choses, en tout cas, c'est ma lecture. Je pense que ce que le prophète lui a signifié, et ça voudrait dire qu'il était déjà conscient de ce clivage, ce clivage entre les politiques, les séculiers, ceux qui sont habilités à gouverner, à exercer le pouvoir, et puis les ascètes qui sont plutôt occupés par leur salut et qui doivent œuvrer pour l'autre monde. Et je pense que c'était ça sa réponse à Abu Dharr en lui disant tu es faible, c'est-à-dire tu n'es pas fait pour tu n'es pas de cette trempe des politiques, tu es plutôt de l'autre trempe, la trempe des religieux, celle qui est beaucoup plus exigeante, finalement, du point de vue de l'islam, du point de vue de l'utopie et de la théologie du salut.
Mais donc, c'est à partir de ce pôle représenté par Abu Dharr, que beaucoup de musulmans vont se mettre à revendiquer une politique qui soit en correspondance avec l'éthique portée par ce type de personnage.
Oui,
et c'est là où vous situez donc les kharijites.
Oui, absolument. Les kharijites sont dans la continuité de ce courant qui était porté par Omar, Ali, Abdallah ibn Mas'ud, Abu Dharr et tant d'autres. Ils étaient nombreux.
Appelle le mouvement des Qurras, c'est-à-dire des lecteurs de Coran, les porteurs de Coran.
Les porteurs, les récitants, ceux qui ont voué toute leur vie à la vénération, à la lecture du Coran, ceux pour qui il n'y avait que ça parce que c'était leur titre de noblesse. Pour eux, l'islam était s'incarner dans le Coran, dans la parole de Dieu. Donc c'était des spécialistes du Coran et ils étaient d'une ascèse radicale et en même temps d'une exigence radicale du point de vue de la volonté de transformer le monde. Car c'est cela, l'ascèse, elle va en même temps conduire à deux lignes différentes, l'ascèse intramondaine qui va vouloir corriger le monde pour le transformer, pour le hisser au niveau de l'idéal, de l'utopie, et l'autre courant qui est le courant contemplatif. Le courant contemplatif qui préfère se retirer, qui préfère le retrait, l'i'tizal, hein, et qui était aussi fortement représenté, mais qu'on connaît mal, hein, parce que ce sont des personnages qui n'ont pas voulu se mêler à la vie au monde, à la vie politique. Ils sont représentés par quelqu'un comme le propre fils de Omar, Abdallah ben Omar, et tant d'autres. Alors évidemment, ça va donner des générations de soufis, qui ont incarné justement ce profil de contemplatif. Ils ne l'étaient pas tous. Certains même ont oscillé entre le pôle contemplatif et le pôle de l'action dans le monde. Et on a quelques exemples comme ça.
Les contemplatifs facilitent les choses parce que là, on est objectivement dans la séparation telle qu'elle peut s'exercer dans d'autres formes symboliques.
Mais alors, la défiance à l'égard du politique, à l'égard de l'État, elle est tellement forte qu'on la retrouve même chez des gens comme ça, des contemplatifs, des soufis, c'est-à-dire des ascètes qui sont dans le détachement total par rapport au monde et qui, dans cette simple indifférence ou ce simple rejet du monde, sont déjà porteurs d'une critique du pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de négatif dans l'islam. Le Coran le dit, il le dit maintes fois. Le pouvoir, c'est la domination, c'est l'oppression, c'est Pharaon qui représente le pouvoir. Le pouvoir de la royauté par rapport à la prophétie, qui est une catégorie positive. Hein, les rois sont des gens qui corrompent, qui sont eux-mêmes corruptibles, qui détruisent les cités. Il y a donc un langage politique dans le Coran et dans l'islam qui est extrêmement négatif à l'égard du pouvoir. Et donc cette aversion, j'ai envie de dire, aversion du politique, on la retrouve même chez les contemplatifs. C'est-à-dire, par leur indifférence, par leur simple indifférence à l'égard du monde, ils sont déjà dans la critique du pouvoir. Et on a toute cette littérature politique et autres qui nous montre des rois, des califes, en train de se prosterner devant des sous. Alors évidemment, ce sont des récits mythiques, des légendes, mais peu importe. Hein. On les retrouve en train de se prosterner devant des grands maîtres soufis, devant des sages.
C'est un schème d'ailleurs que nous retrouvons jusque dans la peinture islamique
qui
reproduit le schème du rapport Alexandre Diogène.
Absolument, absolument. Et donc j'ai beau chercher, écoutez, je n'ai rien trouvé de positif sur le pouvoir. Il n'y a aucune représentation véritablement positive du pouvoir, à part cette utopie de l'État islamique, enfin, qui ne s'est jamais réalisé.
Alors,
et c'est ce que je dis que l'islam et l'État ne se sont jamais rencontrés.
Revenons un peu aux Kharijites, la mauvaise réputation qu'ils ont, alors que vous démontrez qu'ils sont en cohérence totale avec cette première scène, et qu'ils sont représentatifs de de cette espèce d'anarcho-théocratie.
D'exigence.
Et très souvent, une des manières avec laquelle l'Arabie Saoudite a cherché à se disculper de son Ben Laden et de ses crimes, c'est justement d'avoir ressorti de nouveau la notion de Kharijite.
Kharijite. Oui, voilà.
Et
retrouve.
Même les alliés américains, jusque dans les éditoriaux américains de l'Arabie Saoudite, se sont retrouvés familiers de cet usage du Kharijisme.
Alors que
vous montrez que, quelque part, c'est un prurite qui s'est régulièrement exprimé parce que cette utopie anarcho-théocratique est, dès les origines, et régulièrement à travers l'histoire de l'islam, elle ressort.
Elle ressort régulièrement, sauf, je pense, dans le monde contemporain, depuis les islamistes. Je pense qu'elle est là, il y a une béance sur le versant de l'utopie de justice. Ils peuvent faire référence à la justice comme ça, mais c'est un... la conception égalitaire, de cette radicalité égalitaire qu'on avait avec Omar, que Omar a quasiment institué.
Deuxième calife.
Oui, le deuxième calife, qu'il a quasiment institué, parce que même le prophète n'est pas allé jusque-là. C'est un projet de redistribution. Omar avait une conception totalement égalitaire des musulmanes, c'est-à-dire pas de domination des riches sur les pauvres. Alors, on ne va pas parler de socialisme, ce serait anachronique. Mais cette utopie de justice sociale et d'égalité, moi, je ne la retrouve pas avec les islamistes. Et je pense qu'avec Ibn Taymiyyah, donc cette espèce d'ancêtre des wahhabites d'Arabie Saoudite, puisque le wahhabisme...
On fait un saut dans l'histoire et ça nous ramène à la fin du XIIIe siècle.
Donc Ibn Taymiyyah est mort en 1328. Il a, pour ainsi dire, directement inspiré le fondateur du wahhabisme qui a copié ses...
On
est au XVIIIe siècle, et oui, on fait des sauts comme ça, mais je pense que le personnage représente, à mon avis, un tournant. C'est vraiment un tournant. Et on le voit bien dans ses écrits, il n'est plus question de justice sociale. D'ailleurs, même Omar est disqualifié, pour ainsi dire. Le héros, c'est Khaled Abdelwalid, c'est-à-dire celui-là, ce général de l'armée que Omar a destitué parce qu'il a commis des violences inouïes.
Vous osez même à son égard serait considéré comme une profanation par rapport à l'imaginaire hagiographique musulman, criminel de guerre.
Comment oserait-on vénérer un personnage qui a les mains chargées de sang parce qu'il est à l'origine...
Là, on revient à l'islam premier aussi.
Khaled Abdelwalid étant
un des grands généraux de la première vague de conquête.
C'est quelqu'un qui s'est converti sur le tard, qui était déjà un grand guerrier, qui a combattu l'islam avant de se convertir et de mettre son talent guerrier au service de l'islam. Abou Bakr, le premier calife, l'avait nommé général en chef des armées, contre l'avis de Omar, qui ne voulait pas de lui parce qu'il était très violent et arrogant. Et quand Omar est arrivé au califat, il l'a destitué. Et Khaled ibn al-Walid a tué par centaines, par dizaines de milliers des gens qui étaient des ennemis de l'islam, mais aussi des musulmans, c'est-à-dire des gens dont on pensait qu'ils avaient peut-être apostasié, mais en réalité qui étaient désarmés et qui étaient revenus à l'islam. Donc il a tué des prisonniers, il a décapité par milliers. Alors comment oserait-on vénérer un tel personnage ? Moi, dans ce livre, j'ai essayé d'isoler les sources de les racines de la violence. Pas simplement celle des islamistes, mais parce que je pense que les islamistes, y compris sous leur forme terroriste, de toute façon justifient leurs actes par des références scripturaires, en allant chercher dans le Coran, dans les hadiths, dans les avis, dans l'histoire. Mais il fallait isoler ces sources de la violence, une fois pour toutes, et dire voilà. Voilà quels sont les versets, voilà quels sont les hadiths, voilà quels sont les avis, voilà quelles sont les logiques à la fois théologiques, ontologiques, canoniques de l'islam qui légitiment ou qui permettent de légitimer la violence. Je pense que ce travail, nous devons le faire absolument. C'est le rôle normalement bah, de tous ceux qui, enfin, de ceux qui parlent au nom de l'islam et qui disent qu'ils combattent, qu'ils condamnent la violence. Alors s'ils la condamnent, eh bien, il faut faire quelque chose et aller jusqu'au bout de cette logique en disant voilà, nous décidons que les musulmans n'ont plus le droit d'utiliser tel verset, tel hadith, tel avis, parce que ça n'est pas permis, et puis c'est tout. Voilà. Ce travail-là n'a pas encore été fait. Bon. Donc moi, j'ai voulu faire ça. Et pour revenir à Ibn Taymiyyah, c'est très intéressant parce qu'on voit déjà le tournant. Si je parle de Ibn Taymiyyah, c'est parce qu'il représente un maître à penser, une référence centrale pour tous les islamistes, toutes tendances confondues. Et quand on va lire Ibn Taymiyyah, eh bien, on comprend pourquoi il a inspiré tant de d'extrémistes. Eh bien, déjà, chez Ibn Taymiyyah, l'utopie, eh bien, ce n'est plus la justice. L'utopie, ça devient les houdoud, c'est-à-dire le simple fait d'appliquer les peines et les châtiments, c'est-à-dire toutes les dispositions pénales de la loi religieuse. On fait ça, et puis voilà, c'est ça la loi. Il n'y a plus la moindre référence à la justice. Il n'y a plus de miséricorde. Il n'est plus question des moustadafines. Il n'y a plus que cynisme politique et conception totalitaire, répressive de l'islam.
Et il ajoute en plus, comme sixième pilier de l'islam, le djihad.
Exactement. Le djihad avec la prière. L'islam, c'est le djihad et la prière. Alors qu'en même temps, je sais que c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais dans les premiers chapitres, j'ai parlé du djihad en rappelant à quel point c'était surtout une question de survie pour la communauté, une question de subsistance, de ressources économiques. Il fallait aller conquérir de nouvelles terres dans l'esprit de Omar, c'était ça. Hein, il fallait de l'argent, des ressources pour nourrir les musulmans. C'était ça le djihad. Hein. Mais en même temps, j'ai rappelé à quel point Omar, qui était à mon avis fondamentalement un religieux, mais pas, ça a été un grand chef politique, mais il n'a pas laissé le séculier se déployer pleinement. Et c'est quelqu'un qui n'était pas, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, un conquérant. Il ne voulait pas conquérir plus de terres. Il ne voulait pas d'un empire. Parce qu'il fallait qu'il contrôle tout. Et que ce qui a posé en même temps la question de savoir ce que voulait le prophète, qu'est-ce qu'il voulait ?
Mais sous lui, voilà. Quand même.
C'était quoi son projet ? Est-ce qu'il voulait ? Il voulait que l'islam se propage partout ? On n'en sait rien. De la même manière qu'on sait très bien qu'il n'a laissé aucun testament, aucune consigne sur l'exercice du pouvoir, sur éventuellement l'émergence d'un chef politique pour l'ensemble des musulmans ou d'un État. Rien, il n'a rien dit de tout cela.
Mais malgré tout, l'islam s'est configuré comme tel, et à la fois comme empire sous Omar et... À la suite de l'historien tunisien Hicham Djaït, vous reprenez l'analogie entre Omar et Paul.
Oui, c'est vrai. C'est parce que, tout simplement...
Rien que par la conversion. Oui. La conversion
Il y a la conversion
d'Omar, c'est le chemin de Damas.
Oui,
déjà.
C'est l'illumination.
Au départ, c'était un homme connu pour irascible et très violent, lui aussi.
C'est ce qu'on dit, mais moi, en même temps, j'ai nuancé ce propos.
Il était ennemi du prophète en un premier temps.
Il était...
À l'écoute d'une sourate...
Oui, parce que contrairement... Alors c'est
il
très
a été enchanté par le Coran, et c'est à l'écoute d'une sourate immédiatement, il reçoit la révélation de la conversion.
Ça, c'est très intéressant. Et en même temps, je crois que la comparaison avec Paul est aussi fructueuse. Pourquoi ? Parce que je pense que Omar a été un fondateur de l'islam, comme Paul a été un fondateur du christianisme, le fondateur du christianisme. Mais Omar a été un deuxième fondateur, en quelque sorte. Je pense qu'il y a eu une première fondation avec Mohammed, qui est la constitution de la communauté. Le message, l'accomplissement du message et la constitution de la communauté musulmane, sur des bases dont j'ai rappelé qu'elles étaient aussi fondamentalement politiques et pas seulement d'adhésion du cœur. Il y avait ça, mais il y avait aussi une sorte d'allégeance. On prêtait allégeance au prophète en tant que chef politique. Ça, c'est un facteur, je pense, très important.
C'est beaucoup dont, plus comme, dont il faut comme, tenir comme compte. Roi, chef d'une oui, armée oui, oui, qui oui. reconquiert oui, oui. la Mecque que comme prophète.
Et je pense qu'il faut d'autant plus en tenir compte que Abou Bakr a montré que c'était ça qu'il avait compris Abou en Bakr allant faire la guerre.
Étant le premier calife.
Voilà, hein. le premier calife. En allant faire la guerre aux tribus qui ne s'étaient pas désislamisées, on n'était pas sortis de l'islam, mais simplement... Dès lors que le prophète était...
Se sont refroidis, disons.
Non, elles avaient perdu leur chef politique et elles considéraient qu'elles n'avaient aucune raison de rester sous la tutelle d'un autre chef politique. Et donc, du coup, bon, elles s'étaient converties à l'islam, mais l'allégeance politique n'avait plus de raison d'être. Et Abou Bakr a confondu les deux registres, le registre de la foi, qui ne peut être qu'individuel, et le registre de l'allégeance politique, qui... s'est fondée sur la conversion collective.
Ça, c'est la fameuse, ce que dans l'histoire, dans l'historiographie musulmane, on appelle la guerre contre
l'apostasie
des tribus.
En réalité, il ne s'agit
après
pas d'apostasie.
Après la mort du prophète,
voilà.
Oui.
On associe souvent à Omar et Abou Bakr. Je pense que c'est une association qui n'a pas lieu d'être. Bon, c'est vrai que pendant les 2 ans du califat de Abou Bakr, Omar était à ses côtés. Je pense qu'il y a le tournant se situe davantage après la mort de Abou Bakr et l'arrivée au pouvoir de Omar. Abou Bakr est plutôt dans la continuité de l'œuvre du prophète. Et après, on a une autre fondation qui est celle de Omar, parce que lui a introduit une radicalité inouïe dans sa lecture exigeante du Coran, dans sa lecture exigeante de l'utopie de justice et d'égalité, ce que le prophète n'avait pas fait. Par exemple, Omar a totalement rompu avec... il a complètement neutralisé les velléités de pouvoir de la vieille aristocratie, donc de la tribu de Quraysh, de la tribu du prophète, et notamment les Omeyyades qui avaient le plus de pouvoir et le plus de revendications, alors que le prophète avait un certain penchant pour sa tribu. Il l'a montré jusqu'au bout. Et il n'a jamais véritablement rompu, je dirais, affectivement avec cette tribu qu'il avait finalement, désavouée, qu'il avait combattue, disqualifiée, etc. Et Omar a fait ça. Je veux dire par là qu'il a fait des choses que même le prophète n'avait pas osé faire. Et donc je pense qu'il y a une deuxième fondation avec Omar. Et ce que les musulmans ont gardé de Omar, c'est cette utopie de justice, hein, Omar le juste. Et de fait, il a été juste au sens collectiviste du terme, pour ainsi dire. Au sens de la redistribution, pas de hiérarchie, pas de différenciation sociale, pas de différenciation politique. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas la différenciation sociale et la différenciation politique qui est la porte du pouvoir de l'État, du séculier?
Et selon la chronique, il a lui-même donné l'exemple, puisque jamais il n'a porté le manteau de l'émir, du prince.
Il est mort pauvre, alors que le trésor de l'État était plein de richesses.
Alors, le troisième calife, au contraire, Othman, alors c'est tout à fait l'opposé.
Oui, alors avec Othman, on est dans le retour.
La volonté de faire adhérer cette notion de calife à la royauté.
Exactement. Je pense qu'avec
l'idée
Othman,
d'empire était là.
Voilà. Avec Othman, c'est le retour, la revanche en quelque sorte.
Lui, il se servait. Il s'est vraiment servi du trésor.
Il s'est servi et il a laissé ses amis, c'est-à-dire de son clan, de son clan des Omeyyades. Avec Othman, c'est un peu la revanche, la revanche du séculier, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était plus musulman ou qu'il n'était plus un compagnon du prophète. Bien sûr qu'il était tout cela. Mais c'était avec lui, l'État, le séculier, allait se déployer enfin. Et on va le voir par la suite, surtout avec le premier calife dynastique, donc Omeyyade de Muawiya, qui lui a véritablement construit un véritable territoire impérial.
Un véritable État.
Et on voit durant cette période à quel point les Omeyyades étaient prêts pour construire l'État. au sens séculier du terme. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'État religieux. Si vous voulez, pour moi, c'est une antinomie que de parler d'État. Je pense qu'il n'y a pas d'État possible s'il n'est pas un tant soit peu, alors pas complètement parce qu'on n'est pas dans l'État moderne, s'il n'est pas un tant soit peu rationalisé et avec un minimum d'autonomie par rapport à la religion. Parce que on le voit aujourd'hui, au bout de 14 siècles, et en fait l'État musulman s'est essoufflé très vite. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a perduré au-delà du califat? Au-delà de cette espèce d'État, entre guillemets? C'est la communauté. La communauté et la loi, une loi supérieure, la loi religieuse, hein, même si elle est un peu... On ne sait pas toujours très bien comment la définir, comment la situer, etc. En tout cas, une idée de la loi. C'est la communauté. Et ce que les religieux, sous leur forme, sous la forme des coranistes, des kharijites, ou sous la forme du clergé, ont toujours défendu contre l'État, contre l'Empire, contre le pouvoir... C'est la communauté.
Ce que vous appelez le clergé, parce que très souvent on dit il n'y a pas de clergé en islam, particulièrement dans le sunnisme, c'est le corps des oulémas.
Bien sûr qu'il y a un clergé, oui.
Oui. Alors non, mais élément important, face à cette propension à la figure de l'empereur, à la mise en place d'un État séculier, dépensier, somptuaire, il y a eu une énorme révolte. La révolte, justement, détenant de ce que vous appelez l'anarcho-théocratie. Contre Othman, et il a été assassiné, une énorme sédition, guerre civile,
très vite,
ce que les musulmans appellent la grande discorde.
Et ça
ce thème très étonnant, d'ailleurs, comment les quatre premiers califes qui sont censés être représentant l'âge, l'idéalité islamique, a été en fait de très haute tension, la tension entre ce pôle représenté par Abu Dhar d'un côté, refusé par le prophète parce qu'il cherchait quelqu'un de plus efficace, de plus séculier dans le politique. C'est cette tension qui a été à l'œuvre dès le commencement et qui, je pense, c'est là la thèse de votre livre que je trouve forte, qu'on retrouve malgré, évidemment, le fait qu'on a affaire à une tradition religieuse transformée en idéologie, donc avec tous les aspects modernes de l'idéologie, donc avec tout l'aspect de la référence au totalitarisme concernant, je veux dire, l'islamisme comme forme moderne de pouvoir, mais cette idée de vouloir exercer le politique sans les moyens du politique, avec les moyens du religieux et de cette idéalité éthique, c'est ça qui fait la tension et l'échec finalement politique de l'islam.
C'est l'échec, c'est un constat d'échec. Et c'est encore
donc
plus...
les kharijites sortent de toute cette tension-là, de cette...
Les kharijites, de toute façon, je pense qu'ils ont été conséquents. Ils ont été jusqu'au bout de leur logique. Et c'est là où je pose la question. Est-ce que c'est une secte ou est-ce que c'est une religion universelle, du point de vue kharijite? Ça ne peut que finir comme secte. C'est-à-dire que si on veut appliquer l'islam d'un point de vue kharijite, on ne peut que le vivre sous forme de secte, c'est-à-dire de manière complètement isolée, complètement fermée. On ne peut pas le vivre sous la forme d'une religion universelle.
Alors, dites-nous un mot sur cette fondation d'un État kharijite entre le 9e et le 12e siècle, dans votre pays d'origine, l'Algérie, avec pour capitale Taert, Taherite. Alors, comment fonctionnait cette anarcho-théocratie?
Oui. Alors, c'est très intéressant, parce qu'en même temps, ça permet de rappeler...
C'est un peu l'archéologie de ce qui continue d'être...
On oublie que les Kharijites étaient là.
En Algérie.
Exactement. On oublie que les Kharijites étaient là depuis le début, c'est-à-dire que finalement, ceux qui ont islamisé le Maghreb, c'était pas tant les généraux sunnites, on va dire entre guillemets, c'était les kharijites ont fait beaucoup dans l'islamisation du Maghreb. Et ce qui est amusant avec ce que j'ai appelé les États entre guillemets anarcho-théocratiques, parce que c'est déjà un non-sens, c'est que donc ils ont leur imam. Et une communauté, et le pouvoir, l'exercice du pouvoir se transmet d'un imam à l'autre, et puis peu à peu, il va devenir héréditaire. parce qu'il n'y a pas, d'autre solution hein, pour la pérennisation de l'État que de glisser vers des logiques impériales de dynastie. Hein. Et puis ça finira par disparaître. Mais ça a quand même fonctionné. Et ça montre en même temps que l'exercice du pouvoir est impossible sous sa forme anarcho-théocratique. Parce qu'il y a une telle... Les anarcho-théocrates, si je puis dire, théocratiques, veulent un imam parfait. Et il n'y a pas d'imam parfait. Il faut que le chef soit parfait. Et donc ils finissent, puisqu'il ne peut pas être parfait, puisque seul Dieu est parfait, ils le destituent. Et s'il résiste, eh bien, ils le tuent. Ce sont des extrémistes. Alors, il y a effectivement une fibre extrémiste qui est là. Mais si vous voulez, Abdelwahab, moi, je m'oppose à cette habitude qui consiste à isoler les kharijites comme une secte, comme une hérésie. Je pense que c'est un courant, mais c'est beaucoup plus qu'un courant fondamental de l'islam. C'est une conception qui est diffuse chez les musulmans. qui était là déjà chez Omar, chez Ali, chez d'autres compagnons, qui va se manifester autrement, on va la retrouver même chez des chiites. Donc pour moi, le khalijisme, c'est aussi une conception de l'État. C'est pas simplement un courant qui va conduire à une théologie propre, à une des écoles juridiques propres, etc. C'est vraiment quelque chose qui est au fondement de l'islam, hein, qui était là dès les origines. Mais pour revenir à ce que on disait sur la fitna, donc cette première période qui a été fratricide, qui a vu les musulmans parmi les plus importants, puisque des compagnons étaient impliqués là-dedans et des compagnons parmi les plus proches, les musulmans ont idéalisé cette période parce qu'ils ne veulent pas parler de la discorde, ils ne veulent pas reconnaître qu'à l'origine, les musulmans les plus proches compagnons du prophète se sont disputés, se sont battus, ont mené des guerres pour une histoire de succession, pour une histoire de pouvoir. Et pourtant, ça s'est passé comme ça. Et quand les insurgés, qui étaient donc les futurs kharijites, c'est-à-dire tous ces musulmans qui étaient des coranistes, qui étaient des ascètes, qui défendaient un islam égalitaire de justice, vont finir par assassiner le troisième calife Othman, qui lui, en exerçant le pouvoir en tant que calife, il l'a fait aussi en tant que omeyyade, c'est-à-dire en tant que représentant de son clan, hein, d'un clan qui était déjà prêt pour le pouvoir, pour l'exercice du pouvoir. Et c'est donc la bataille entre le séculier et le religieux. Et c'est le religieux qui finira par l'emporter. Et ils ont assassiné Othman et ils vont aussi assassiner Ali, le quatrième calife, oui, enfin, qui pourtant était des leurs.
Mais enfin, les Omeyyades, après, vont créer le premier empire. Donc, oui, c'est eux qui vont finir, oui, par gagner.
Oui, gagner, mais gagner pas en état.
C'est là où
Oui, c'est vrai.
C'est là où se réalise l'histoire réelle.
C'est vrai que
Mouawiya. Et c'est là où vous parlez, où le mot utopie de l'islam, Leila Babès, se confirme. C'est-à-dire, ceux qui, au nom du religieux, ont voulu agir, ont échoué, en fait. Et chaque fois, systématiquement, ils reviennent et ils échouent.
Ils échouent, mais ils font échouer l'État. De ce fait, ils font échouer l'État, ils font échouer le politique. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux. On est dans un mouvement cyclique de restauration, de réforme, de guerre, de contestation, etc. Il y a des mots pour ça jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de réformiste, voilà. Le terme même de réforme s'inscrit dans cette logique de la contestation, du retour perpétuel aux sources. On fait table rase, on détruit tout et on remet de l'ancien, etc. Et ainsi de suite. Mais les deux ont échoué, aussi bien les religieux que les politiques, parce que les religieux n'ont jamais laissé les politiques instituer l'État. Il y a un échec de l'institution de l'État et il y a un échec de l'utopie de la religion.
Mais il y a bien eu histoire. L'histoire réelle est ailleurs. L'histoire est celle des empires, celle des émirats, celle des dynasties qui a fonctionné, qui a créé des villes, qui a créé une civilisation.
Oui, oui, qui a mais créé en même temps, j'ai rappelé à quel point, et d'ailleurs Ibn Khaldoun le dit très bien, à quel point ces fondations se font pratiquement ex nihilo parce que on vient faire table rase de l'ancien, on rebâtit ailleurs. Il n'y a pas de véritable cité, c'est-à-dire des cités-états. Où, même si on change de dynastie, les institutions restent et perdurent. Voilà, c'est ce retour cyclique. Ibn Khaldoun, on retrouve très bien sa théorie du pouvoir, hein, de la perpétuelle destruction
pour refonder. Vous rappelez d'ailleurs que l'étymologie même du mot qui désigne l'État en
exactement, arabe, Daoula, c'est la roue de fortune.
Implique la roue qui tourne.
C'est la roue qui tourne, c'est-à-dire les mots du politique. Qu'il s'agisse du Coran, qu'il s'agisse de la littérature politique, du Hadeb, etc. Tous les mots ont un sens négatif. La daoula, l'État, qui est le concept clé pour parler de l'État, est porteur de cette signification d'instabilité, mais du séculier au sens de siècle, hein, de ce qui dépérit, de ce qui s'en va. Et Ibn Khaldoun lui-même le dit, l'État ne dure pas plus de 100 ans ou 120 ans. De la même manière, les Abbassides, quand ils parlaient des Omeyyades, ils disaient « Bon, mais c'est fini, là, ils devraient pouvoir disparaître pour nous laisser à la place, parce que ça a déjà trop duré. » Donc voilà, un État, c'est quelque chose qui ne dure pas. Hein, parce que, à chaque dynastie, un État. Donc il n'y a pas d'État au-delà des dynasties. L'État ne peut pas se constituer dans l'instabilité et simplement en étant la chose qui appartient à un clan, à une dynastie.
J'aimerais bien qu'on se préoccupe de deux questions, Leila Babès, que vous évoquez fortement dans votre livre. Cette triade que les musulmans veulent attribuer à l'islam lorsqu'ils disent que l'islam est din,
dunya
et daoula.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est religion, monde
et
siècle.
État.
État.
Oui. Oui, alors c'est effectivement un
et
trinôme.
Et d'ailleurs, pardonnez-moi, c'est à partir de ce trinôme que certains orientalistes ont pensé cette consubstantialité justement du religieux et du politique pour laquelle vous faites tout un sort. Mmh. C'est-à-dire vous en faites non pas une consubstantialité mais une tension intrinsèque qui crée une utopie.
Bon, d'abord sur la question je reviens sur le din et le dunya parce que c'est très important. Mais la notion, on a tendance, les libéraux, les laïcs ont souvent se sont souvent élevés contre ce triptyque là de religion, monde et État pour disqualifier l'État, pour dire que justement l'islam n'est pas ce n'est pas une religion à État parce que le politique est quelque chose d'étranger à la suite de Abderrazik justement, hein. Je pense que c'est faux. C'est vrai que les islamistes ont beaucoup instrumentalisé ce trinôme pour mettre l'accent sur le fait que l'État est un pilier de l'islam. Mais en même temps, je refuse, en tant qu'anthropologue, de dire comme ça, répéter que le prophète a fondé un État. Mais non, il n'y avait pas d'État à Médine à ce moment-là. Déjà, même avec Omar, c'est encore, on est dans les fondations. Hein, l'État, c'est pas simplement la présence d'un chef politique. Maintenant, s'agissant de la relation entre le din et le dunya, entre l'islam en tant que religion et monde, c'est très intéressant. Mais en même temps, c'est porteur d'une tension qui n'est pas moins importante que celle qui existe entre la religion et l'État. Parce que d'un côté, on a le Coran ne dévalue pas, il ne disqualifie pas les richesses du monde. Hein. Le monde n'est pas... Il y a des versets où on peut même penser qu'il y a un éloge du monde. Hein. Les richesses sont offertes, ça remonte à au pacte hein, de l'alliance entre Dieu et le genre humain et Adam. Le Coran promet en même temps des richesses pour les combattants. Hein. Il y a des promesses terrestres en même temps que des promesses eschatologiques. Mais en même temps, il y a cette conception du monde qui est négative, hein, qui a été radicalisée par les ascètes. Le monde, c'est la porte du pouvoir. Hein, ce sont les richesses. Les richesses, ça évoque les Mécois et leur arrogance. Hein, le Coran a beaucoup vilipendé l'arrogance des riches qui ont combattu le prophète. Le monde, c'est le pouvoir. Hein. Et Omar a beaucoup, beaucoup disqualifié le monde, celui qui était porté au-delà de l'Arabie, dans les conquêtes, lorsqu'il a interdit aux grands compagnons d'aller se laisser corrompre dans le monde et en même temps de laisser le monde se corrompre par eux. Il y a une vision extrêmement négative du monde. Et en même temps, il n'est pas totalement disqualifié. Et cette tension est très problématique. Et qu'est-ce qu'on fait de ce monde, à part le critiquer? Hein, donc il y a une critique qui est permanente du monde, et il y a, parmi ceux qui critiquent, toujours la tentation de vouloir le corriger, pour le transformer.
Je voudrais évoquer la fin de votre livre, la toute fin de votre livre, qui résume bien ce que vous venez de dire. Comment résoudre la tension qui oppose la vie ici-bas et l'au-delà? Le monde, Donia et la religion. Le sunnisme a tenté de trouver des méthodes qui puissent concilier les deux déséquilibres, mais cependant toujours instables, sans jamais parvenir à contenir le cycle infernal des prétendants à la réforme, les mahdis. Vous évoquez beaucoup, beaucoup le mahdisme et les mahdis, cette figure eschatologique.
Et puis ce ressort fondamental qu'est le principe du commandement du bien et de l'interdiction du mal.
Commandement du bien, interdiction du mal, c'est le deuxième point sur lequel j'aurais aimé évoquer avec vous, parce que vous lui consacrez de très longs passages. Des chercheurs américains, d'ailleurs, ont consacré un livre entier, je crois que c'est Patricia Crone et...
Michael Cook
ont écrit un livre entier sur cette question, hein, le commandement du bien et l'interdiction du mal. Vous en révélez la genèse, le rapport, la tension entre justement théocrates et séculiers sur cette question, qui s'en saisit. Nous la laisserons de côté, nous laisserons nos auditeurs qui veulent découvrir votre livre en tant que lecteur donc, de l'utopie de l'islam, ils la retrouveront, très bien développée. L'islamisme contemporain et sa manifestation la plus extrême, le terrorisme, croit pouvoir réaliser le din en lui soumettant la dunya, la religion, en lui soumettant donc réaliser la religion, en lui soumettant le monde, ce qui d'un point de vue théologique est une perversion absolue, perversion du din parce qu'il est amputé de sa dimension individuelle et eschatologique, et perversion de la dunya, du monde, qui par définition étant le domaine de la vie et des hommes, est transformé en tribunal divin. Et enfin, perversion de la toute-puissance de Dieu, puisqu'en jugeant à la place de Dieu, en ne laissant aux hommes aucun espoir de libre arbitre, ils empiètent par là même sur le terrain de Dieu. Là, vous évoquez dans votre livre ce que les islamistes appellent la Hakamiya, qui est vraiment une théorie nouvelle, une théorie du XXe siècle, qui interprète le concept, enfin le verset, Al-Hukmulillah, le pouvoir est à Dieu, le jugement est à Dieu. Et une seule alternative s'offre désormais aux croyants pour affronter enfin l'histoire, le renvoi à Dieu et l'accommodement avec le monde, ou sa fuite. Oui. finalement, nous retrouvons, c'est là où le cercle se ferme, nous retrouvons la Genèse, la matrice, oui. le fameux débat entre oui. Abou Dharr et le prophète que nous avons évoqué tout à l'heure, et qui devient la structure même de cette utopie. Cet échange que la grande Rabia al-Adawi, à qui nous avons consacré deux ou trois émissions dans Culture d'Islam, la grande soufia, la grande maîtresse, un des grands maîtres du soufisme, la dame de Bassora du 8e siècle, résume parfaitement le dogme coranique du passage provisoire sur terre. Alors je vous donne cette très belle citation, elle est dans votre traduction je crois. « D'où viens-tu, lui demandait-on, de l'autre monde, et où vas-tu dans l'autre monde? Et que fais-tu dans ce bas monde? Je me joue de lui. Et comment te joues-tu de lui? Je mange son pain et j'accomplis les œuvres de l'autre monde. » C'est la toute dernière phrase de votre livre, Leila Babès. Merci pour cette utopie de l'islam, la religion contre l'État, parue aux éditions Armand Collin. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordonné par Dominique Compétissa. Le son et la technique ont été assurés par Fabien Capel. La réalisation et la mise en onde par François Connat. Il y a un moment.